Bonjour à tous. Vous allez bien? Forcément, ça doit aller bien, normalement. Et j'espère que ça ira encore beaucoup mieux tout à l'heure. Ce que j'ai reçu de vous présenter ce matin, est-ce que ça s'affiche? C'était d'abord l'identité, notre identité. Quelle est notre identité? C'est des questions qu'on peut vous poser peut-être quand vous êtes à la douane, mais que vous avez besoin aussi de savoir quand vous êtes dans le royaume de Dieu ou que vous n'y êtes pas encore. Et assez vite, l'intimité est venue se coller à l'identité. Donc vous allez voir pourquoi. Vous connaissez ce verset que j'ai mis? Vous ne le connaissez pas. Alors, c'est la traduction de parole vivante, parce que le verset original, vous le connaissez, de Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Alors ici, il est dit, si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qui était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un processus qui rentre en action. Et contrairement à souvent ce qu'on a pu entendre, c'est que c'était réglé. Maintenant, tu as pu à revenir en arrière, et quelque part, si tu as encore des souffrances, c'est pas normal, quoi. Mais le processus est en route. C'est ça que ça veut dire. Le processus est en route. Le processus de sanctification, on en a parlé assez souvent, est en route. Nous sommes sauvés le jour où nous donnons notre vie au Seigneur. Clair et net. Nous passons de la mort à la vie, c'est certain. Mais après, le processus de sanctification, de devenir un nouvel homme, il est en cours. Nous sommes en voie de le devenir. Amen. Donc ça fait partie de notre identité. Et alors, le texte que j'ai pris pour support de cette prédication, vous le connaissez tous aussi. Ivor, tu peux mettre la diapo suivante? Ah voilà. Bon, Matthieu 4, du verset 1 à 11. Et donc, c'est Jésus était conduit au désert et c'est la tentation de Jésus-Christ. Et je ne vais pas vous parler que de la tentation. Donc, verset 1. Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. » En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Vous connaissez ce passage, hein? Et donc, on va aller... Donc, je vous ai dit que j'allais vous parler de l'identité. Et en fait, quand ce texte était devant mes yeux, le Seigneur m'interpellait sur autre chose que la tentation, mais en fait comme un test que le diable faisait passer à Jésus. Si tu es le Fils de Dieu, il voulait vérifier son identité. Et mes amis, le Seigneur nous a dit que le disciple n'était pas plus grand que le maître. Si Jésus a été tenté de cette façon-là, s'il a été soumis à ce test-là, nous aussi, nous pouvons être soumis à ce test-là. Et il est important pour ça de connaître notre identité, qui nous sommes réellement. Et ce n'est pas si facile. Et donc, ce qui est souvent surprenant, mais c'est que Satan, il savait très bien qui était Jésus. Il savait très bien qu'il était le Fils de Dieu. Et comme il sait très bien, quand on est de nouveau, à qui on appartient maintenant, il va venir mettre le doute. Si tu es le Fils de Dieu, si tu es un enfant de Dieu. Et nos pensées commencent à tourner. Notre ancienne personnalité et la nouvelle peuvent être dans la confusion. Et vous savez qu'il est Satan est un menteur, le père du mensonge. Et nous le voyons là, il utilise auprès de Jésus la parole, mais d'une façon trompeuse. Et il peut le faire aussi avec nous. Quand vous arrivez à une frontière, il y a un contrôle de papier. Et ça nous est arrivé. Si vous manque un papier, s'il y en a un qui n'est pas dans l'ordre, qui n'est pas comme il devrait, eh bien vous êtes refoulé. C'est très clair. Et donc, dans le monde naturel, c'est ça. Dans le monde spirituel, ça peut être ça aussi. Et donc, les papiers valides pour nous, ce qui valide notre identité, c'est Romains 10, je ne sais pas si je l'ai mis celui-là, si, et qui a été prononcé également tout à l'heure, Romains 10, 9, 11, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, confesser de notre bouche, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car en croyant du cœur, on parvient à la justice, en confessant de la bouche, on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il y a bien deux choses, croire du cœur et confesser de la bouche. Et il ne suffit pas simplement de dire des paroles que tout le monde peut dire. Ce qu'il doit y avoir, c'est une attestation dans notre cœur. Cette attestation, je suis bon un coup, cette attestation, décidément, j'ai du mal avec de l'eau ou sans eau, eh bien, cette attestation, elle vient du Saint-Esprit qui est venu sceller ces choses dans nos cœurs. Et personne ne peut l'ôter. Ça a été écrit pour toujours. L'attestation dans le cœur et la proclamation de la bouche, et de dire de notre bouche, « Oui, j'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui m'a sauvé. Il m'a retiré de la boue du péché, là où j'étais, aveugle, condamné. Lui m'a tendu la main. Il m'a secouru. Et il m'a lavé de tous mes péchés. Amen. Et je suis devenu son enfant. Celui quiconque croit en lui ne sera pas confus. » C'est pour ça que je vous dis, c'est notre passeport quelque part, parce que quand il y a ça décrit dans notre cœur, il n'y a plus de confusion. Mais on a besoin de l'entendre une fois, mais tous les jours, si possible. On a besoin de se toucher de cette intimité avec le Seigneur, qui rafraîchit ces choses dans notre cœur. Amen. Et donc, là où le premier test, en fait, c'était sur un besoin primaire. Jésus avait faim, c'était normal, après 40 jours de jeûne. Et le diable est venu le tenter sur un aspect donc primaire, tout à fait simple, la nourriture. Et nous pouvons être trompés parce que nous avons aussi des besoins qui sont légitimes. Il n'est pas parlé de besoins illégitimes, vraiment des besoins légitimes. Et c'est important de savoir que notre papa, amen, il connaît tous nos besoins. Amen, il connaît tous nos besoins. Ceux que nous évoquons de notre bouche, mais aussi tous ceux qui sont cachés, il les connaît parfaitement. Il les connaît parfaitement. Combien il nous aime, ce papa. Il voit bien au-delà de ce que nous voyons. Il sait tous les besoins de notre vie, parfaitement. Matthieu 6, 31-32, « Ne vous inquiétez donc pas en disant, « Que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus ?» Ce sont des besoins primaires. Car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il sait. Il sait que vous en avez besoin. Amen. Et donc, notre identité de fils ou de fille de Dieu, elle repose sur une grande intimité avec le Seigneur. Sur vraiment cet échange qu'il y a de cœur à cœur, d'esprit à esprit, qu'il connaît toute notre vie, qu'il connaît nos besoins les plus profonds, qu'il entend nos soupirs inexprimables. Amen. Combien il est précieux de connaître ce Dieu d'amour, ce Dieu qui entend même quand on ne parle pas. C'est lui qui nous donne ce passeport. Et s'il y a besoin d'un visa, il tamponne le visa. Alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Le deuxième test, lui. Et donc, l'ennemi répète, « Si tu es le Fils de Dieu !» La première réponse lui a pas suffi. Bien souvent, c'est le cas. Il réinsiste. Il sait très bien. Mais s'il peut vous pousser dans le doute, il va le faire. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, il donnera des ordres à ses anges. À ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Ça, c'est une question un peu plus spirituelle, mais combien trompeuse. Ici, il n'y a pas vraiment un besoin primaire, indispensable, mais une sorte de séduction. On est séduit par quelque chose qu'on aurait envie de faire, quelque chose qui n'a rien de cohérent, vraiment. Si on interroge le Seigneur, on voit très bien que ce n'est pas quelque chose de cohérent. Mais par contre, dans notre folie, quelquefois, on peut y mettre le pied. Mais il y a aussi cette assurance, quelque part, que l'ennemi cherche à voir. Est-ce que ton Dieu va te protéger? Est-ce qu'il est une protection sûre? Et si tu ne le sais pas, que chaque jour, il veille sur toi, il te protège sur toutes les facettes de ta vie. Amen. Si je ne suis pas dans la folie, effectivement, de me laisser tenter par quelque chose qui n'aurait rien de sensé. Mais le Seigneur nous donne aussi la sagesse. Alors quand on croit du cœur et on confesse de la bouche que Jésus est notre Seigneur et notre Sauveur, il y a aussi quelque chose qui change. C'est que notre destination de notre vie, elle change. Nous étions dans un train qui nous conduisait à l'enfer. Un train qui nous conduisait à la mort pour l'éternité. Et dans sa grâce, le Seigneur a ouvert nos yeux. Et nous a dit, mon enfant, tu te trompes. Regarde, ouvre les yeux sur qui je suis, ce que j'ai accompli à la croix pour toi. Et quand notre cœur voit l'immensité de notre séparation avec Jésus, à la repentance, nous, vient nous étreindre. Et de la repentance vient aussi l'acceptation que lui, il a accompli toutes choses pour qu'on soit réconcilié avec le Père. Et là, nous montons dans un autre train. Il y a un aiguillage, le Seigneur, pop, il vous met dans un autre train, vers une autre destination. Ce n'est pas forcément la destination des vacances, hein. Pas toujours, hein. Avec le Seigneur, le voyage peut être agité, mais combien agréable. Bon, moi j'aime bien l'aventure, hein, donc mais donc c'est pas toujours confortable d'être chrétien. Non, hein, non, c'est pas toujours. Mais je sais plus qui a dit qu'un saint n'était jamais une personne dorlotée, un bébé dorloté. Non. Donc nous changeons de destination. Nous allons à un autre but. L'autre but, c'est le royaume de Dieu, c'est d'être pour l'éternité avec le Seigneur. Amen. Donc nous avons changé de destination. Là, l'ennemi, il ne peut pas y faire grand-chose. Sauf nous à nous mettre d'accord. Ça, c'est un autre sujet. Mais il ne peut pas faire grand-chose. Par contre, là où il peut nous perturber, c'est que dans la destinée, c'est-à-dire tout ce qui peut se passer dans le voyage, ben là, il peut perturber, oui. Il peut perturber votre destinée. Les choses qui doivent s'accomplir dans votre vie, là, il peut les perturber. Et ce qu'il va chercher, c'est à perturber votre destinée. Tout ce qui peut se passer dans votre vie, il va chercher à les orienter différemment. Et à nous faire douter, bien sûr, mais à nous faire avaler des couleuvres, avaler je ne sais quoi, des mensonges. Il est le père du mensonge. Et nous tromper dans notre destinée. Je vous ai déjà dit, hein, le Seigneur, il a le plan A qui est parfait, parfait de parfait. Il y a des fois, Seigneur, je dis, quel numéro de plan je suis arrivé. Quelquefois, je pensais prendre un raccourci. C'est vraiment une rallonge que j'ai pris. Ah. Donc, le Seigneur veut veiller sur notre destinée aussi, une destinée parfaite qu'il a pour nous. Et c'est pour ça que c'est important de savoir qui on est et pas de se laisser trimballer, bouleverser, chahuter par les mensonges de l'ennemi, mais aussi par la vie tout court. Et c'est vrai que dans ces périodes de vie qui sont agitées, l'objectif de l'ennemi, c'est de saper notre foi. Et quelquefois, de se révolter aussi contre Dieu. Mais Seigneur, tu avais promis que... Je pensais que, mais je t'ai prié pour que... Parfois, c'est difficile parce que notre compréhension n'est pas juste. Et je dis souvent, quand ce n'est pas ce qui se passe qui arrive dans ma vie, Seigneur, il y a une chose de sûre. Moi, je me suis sûrement trompé, mais toi, tu ne t'es pas trompé. Tu es toujours le même. Toujours le même. Je sais que tu m'aimes et que tu es fidèle dans les moindres détails. Refais-moi venir dans le chemin que tu avais prévu pour moi. Et ça m'a fait penser à cette histoire de... que vous connaissez, mais en fait, je me suis dit, mais il y en a des tas d'histoires comme ça. De quelqu'un qui meurt péniblement, isolé, abandonné de tous, dans un taudis. Et quelques jours après, on découvre qu'il dormait sur un lit, un matelas de billets, une fortune. Il était riche, mais il ne savait pas se servir de cette richesse. Il avait une grande richesse. Mais dans l'histoire, j'ai lu des choses Bon, c'est l'égarement des hommes, mais des hommes quelquefois très très riches, qui ont connu la gloire, et à la fin de leur vie, se trouvent complètement isolés. Complètement isolés. C'est le vide autour d'eux. Et le mensonge de l'ennemi, c'est de vous faire croire que vous n'avez rien en Jésus-Christ. Alors qu'au contraire, vous avez tout en Jésus-Christ. J'en suis où ? Le troisième test. Et donc le troisième test, je peux reprendre dans le passage. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. Et un autre piège, une autre séduction, c'est la gloire de ce monde. La gloire de ce monde, elle brille jusqu'à nous attirer, jusqu'à nous séduire et nous captiver. Et c'est une sorte d'idolâtrie, quelque chose qui peut nous dépasser, quelque chose qui voudrait remplacer Dieu. Et bien sûr, ces choses-là, elles existent. Et la réponse de Jésus, que vous connaissez, c'est « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que l'Éternel. » Et donc là, quand nous sommes séduits par ce genre de choses, c'est encore un manque de connaissance profonde de notre identité. Et que dans les profondeurs de notre cœur, nous ayons été touchés par la grâce du Seigneur, cette révélation qu'il veut augmenter chaque jour, qu'il veut rafraîchir, qu'il veut dépoussiérer, qu'il veut rendre vivant pour cette journée. Nous verrons tout à l'heure, mais notre Dieu est le Dieu du présent. Il a pour nous quelque chose aujourd'hui. Ce n'est pas une promesse qui était valable hier, qui est plus valable aujourd'hui. Ce ne sont pas des promesses en l'air, il est le Dieu d'aujourd'hui. Pour aujourd'hui, il sait ce dont on a besoin. Et connaître Dieu, vous savez, il y a une signification, une traduction, qui est quand, par exemple, Adam connut Ève, c'est-à-dire qu'il y a eu un rapport sexuel et qu'ils ont eu des enfants. Connaître, c'est connaître dans l'intimité, dans les profondeurs. Et quand on connaît dans l'intimité comme ça, notre épouse, il s'est passé beaucoup de choses avant. Et on ne connaît pas seulement un instant le rapport sexuel conjugal, c'est la cerise sur le gâteau. Si vous mangez que des cerises, ça ne va pas vous nourrir. C'est aussi un piège, ça. Il n'y a pas que des cerises. Il y a un beau gâteau à construire. Un couple qui se forme, qui vit ensemble, qui a des relations, qui se connaît dans tous les sens. On parle là vraiment d'une intimité dans le mariage, mais ce sont des cœurs à cœur qui vont produire après des corps à corps. Mais cette intimité, c'est celle-là, connaître dans les profondeurs. Et Dieu, quand il parle de connaître, c'est comme ça, dans nos profondeurs. Et ce qu'il veut dans notre cœur, c'est ça, c'est déposer cette connaissance. Pas de la superficialité. Il était cité tout à l'heure, hein. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà ce qu'on reçoit à notre nouvelle naissance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le plan divin de Dieu qui est en marche Alors ensuite, pour aller plus loin, pour me dépêcher un petit peu, l'identité elle est donnée par le papa. Sur le plan naturel, c'est notre papa qui donne l'identité au jeune garçon ou à la jeune fille. Dans le plan naturel, c'est ça. C'est important que le papa y soit, il connaisse ces choses-là et il soit présent. C'est lui qui confirme les qualités de l'un comme de l'autre. Il donne de l'assurance dans qui on est. Et là-dessus, moi le premier, je reconnais qu'il y a bien des manquements. Je n'ai pas pu donner tout l'équipement que j'aurais dû à mes enfants, ça je le sais. Et parce qu'on reproduit aussi ce qu'on a vécu quand on était enfant. On a reproduit le péché de nos pères. Mais il y a eu pire que ça aussi. Il peut y avoir des abus dans les vies. Ça, c'est sur le plan naturel. Mais Dieu va au-delà de ça. Et le plan, le rapport père-fils, fille-père peut transposer un plan. C'est-à-dire qu'on va comparer notre papa céleste à notre papa sur terre. Il va dire, je ne peux pas l'appeler père, je ne peux pas l'appeler papa. Parce que mon papa à moi, d'ailleurs je ne peux même plus l'appeler papa. Ça me fait trop souffrir. Ou je ne l'ai pas connu. Il y a toutes ces circonstances-là. Et je lisais récemment, c'était un petit test simple qui est assez simple de faire. Il y a trois portes devant nous pour venir parler à Dieu. Il y a la porte du Père, la porte du Fils et la porte du Saint-Esprit. Et on te demande, je vous demande, laquelle vous allez choisir, vers laquelle vous allez aller le plus facilement. Et en fait, beaucoup d'entre nous, on va aller par la porte de Jésus. On va aller par cette porte. Celle du Père, on en a un peu peur quand même. Donc, il y a des choses qui sont venues là. Des mensonges. Des énormités de mensonges que Dieu veut gommer dans son amour. Et la vraie réconciliation, c'est celle-là que Jésus-Christ a accomplie. Que nous soyons réconciliés avec notre Papa céleste et que nous puissions crier et nous écrire Abba Père. Parce que ce Papa-là, il nous a désirés bien avant nos parents. Et même si vous êtes né d'une relation illicite, votre Papa céleste vous a désiré. Il vous a voulu. Ce n'est pas toujours facile à entendre. Mais votre papa céleste, il vous a désiré. Il vous désire toujours. Il désire vous étreindre contre son cœur. Vous communiquer son amour. Que vous êtes un véritable enfant de Dieu. Et toutes ces choses-là, le Seigneur veut nous les apprendre. Et ça m'a rappelé Jean 8. Jésus dit alors aux Juifs, qui avait cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Et c'est souvent en parcourant les Écritures qu'on voit ces choses merveilleuses que Dieu nous dit à travers sa parole. Nos yeux s'ouvrent à nouveau. Le processus de guérison, de restauration commence. Vous connaîtrez cette parole, et si vous demeurez dans cette parole, vous connaîtrez la vérité, elle va se révéler, et la vérité vous rendra libre. Et je peux vous lire aussi Romains 8, du verset 15 à 17. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifié avec lui. Et ce mot co-héritier, je ne sais pas quelle signification il y a dans votre tête, dans votre cœur. Imaginez-vous, peut-être c'est arrivé sûrement pour certains, vos parents sont décédés, il y a un héritage. Et vous êtes trois enfants. Et les trois enfants vont être héritiers, mais co-héritiers. OK ? Et là, il nous a dit quoi ? Héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Co-héritier de Christ ! Il nous a donné la même part en Jésus, c'est vrai. La même part que son Fils. D'être réconcilié, d'avoir part à cette vie divine, cet amour où les barrages ont éclaté, qui peut passer dans notre cœur. Cet héritage, c'est cet héritage-là qu'il veut réconcilier pour toujours. Amen. Si je vais à l'envers, ça ne va pas aller. Hein. Je vais vous redire des choses. On n'a pas fini. Hein. Sauf si vous voulez que je vous répète des choses, mais ça, on pourrait le voir tout à l'heure. Mais nous avons des difficultés dans notre identité. La difficulté, ça vous le connaissez aussi, c'est de dire qui nous sommes. C'est difficile de dire qui nous sommes. Et moi, je me suis fait avoir bien souvent par te demande qui tu es. Et puis tu vas dire ce que tu fais, quoi. Bon, tu rencontres quelqu'un, salut Dédé. Mais au fait, qui tu es ? Je suis plombier à Rennes. Je travaille avec 5 ouvriers. Bon, c'est pas ça que je te demande, je sais pas ce que tu fais. C'est qui tu es ? Et en fait, on a du mal avec ça. On va dire ce qu'on fait. Mais avec Dieu, l'être, qui nous sommes, a beaucoup plus d'importance que ce que nous faisons. Et en fait, pour bien faire ce que nous avons à faire, nous avons intérêt à savoir qui nous sommes. Et j'avais cette petite image ce matin. Le Seigneur, il est dans son atelier. Au boulot, le Seigneur travaille, vous savez ça. Il a des outils devant lui, quantité d'outils tout à fait différents pour intervenir dans tous les domaines. Et chacun d'entre nous, nous sommes un outil différent. Un outil qu'il a préparé pour des œuvres préparées d'avance. Nous sommes un outil que le Seigneur prépare. Donc, ne regardez pas votre voisin, votre voisine, et je ne suis pas comme ceci, je ne suis pas comme cela. La comparaison ne vous conduira à rien du tout. Vous êtes un outil spécifique pour les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Amen. Je ne veux plus entendre de comparaison, hein. Il y a des messages personnels qui peuvent être dits. Et puis donc, cette personnalité, quelquefois, on n'a pas envie de creuser là-dedans non plus, savoir qui on est. Mais par contre, avec le Seigneur, moi, j'ai envie de creuser, d'aller dans les profondeurs du cœur du Seigneur pour qu'il aille dans les profondeurs de mon cœur. Dans Exode 3, 14, Dieu dit à Moïse, vous allez voir comment Dieu, lui, se présente, « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et donc, vous voyez bien, Dieu n'a pas dit, j'ai fait le ciel et la terre, tous les bêtes vivantes, tous les animaux, etc. Non, non, il n'a pas dit ça. Il a dit, Je suis. Il a dit, Je suis. Je suis l'Éternel. Je suis celui qui t'aime. C'est toujours au présent, Je suis. Il est le Dieu de notre aujourd'hui. C'est ce jour d'aujourd'hui qui est le plus important à vivre, mes amis. Demain est un autre jour. Mais aujourd'hui est à vivre. Il est le Dieu du présent. Il est le Dieu de ton présent. Ne reporte pas à demain ce que le Seigneur veut accomplir aujourd'hui. Il est le Dieu de notre présent. Jésus l'a dit, voici, je suis tous les jours avec vous. Quelle promesse! Et Apocalypse 1, verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, début et la fin. Je suis le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Il est infini, le Tout-Puissant. Et nous sommes faits à l'image de Dieu, ça vous le savez aussi. Et donc, le plus important pour nous, c'est bien d'être aussi. Et que ces vraies racines de qui on est, elles sont importantes à retisser dans notre cœur, qui on est. Et il y a aussi des avertissements concernant ça. Et celui-là, je vais vous le dire avec tout mon cœur, toute ma... et sans jugement par rapport à ce qui peut se passer dans vos vies et vos itinéraires. Je peux vous dire que souvent dans mon cœur, je pleure. De personnes qui disent « je suis chrétien ». Il y a l'étiquette. Mais je suis un chrétien de tradition, un chrétien culturel. C'est-à-dire, j'ai suivi peut-être mes parents, j'ai suivi le mouvement, mais il n'y a que l'étiquette. Et on peut proclamer de la bouche. Le cœur n'a pas été saisi. Mes amis, reconnaissez, si c'est votre cas, reconnaissez ça. De parler ne vous suffira pas. Votre identité se trouve à l'intérieur. Et c'est de l'intérieur, de ce qui se passe à l'intérieur, que l'extérieur change. Et ce n'est pas l'inverse. Je peux vous dire que souvent, ça me fait souffrir, ça. Je dis, Seigneur, et je ne suis pas le seul, je peux vous dire, dans cette église. On pleure de ça, on dit, Seigneur, que les cœurs soient touchés. Que les cœurs, Seigneur, tu viennes. Tu viennes, Seigneur. Pas nous, mais toi. Toi qui a la main parfaite, qui a les mots parfaits pour le dire, pour toucher les cœurs, les retourner et les faire venir à toi. Et non pas qu'il y ait des mots seulement, mais des cœurs changés. Et vous verrez, ce n'est pas du tout pareil. Là, l'histoire, elle n'est plus la même. Hein. Et ça, sur votre cœur, c'est rechercher cette intimité avec le Seigneur, non plus une étiquette qui serait « je vais à l'église tous les dimanches ». Ben oui. Je vous signale que les chaises, elles sont là 365 jours sur 365. Est-ce que nos chaises sont chrétiennes? Pas du tout. Et pourtant, elles sont toute l'année à l'église. Elles ne loupent pas un culte, pas une réunion. Je vous le dis, c'est vrai, c'est que vos cœurs soient saisis. Matthieu 7, 22, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur. Là, c'est autre chose. Hein. N'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? Alors je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. C'est grave. Je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces mots sont très sévères. Vraiment que votre cœur, que de tout votre cœur, vous cherchez le Seigneur. Cette intimité, cette profondeur qui va venir vous apporter votre identité. Qui vous êtes réellement? Alors pour finir, je voudrais vous lire quelque chose que peut-être vous connaissez, je pense, la lettre d'amour du Père, qui est là une accumulation de versets. Donc la parole de Dieu nous dit qui nous sommes. Alors vous pouvez le lire pour les plus près, désolé pour les plus anciens, qui ont des problèmes de Dieu. ils peuvent se rapprocher, il y a de la place. Et pour ceux en tout cas qui ne pourraient pas lire, mais si vous le voulez, puis bon, ça se trouve connaître-dieu.com, il me semble. Donc c'est la lettre d'amour du Père. Mon enfant, je regarde jusqu'au fond de ton cœur et je sais tout de toi. C'est dans le psaume 139. Je sais quand tu t'assieds et quand tu te lèves. Je te vois quand tu marches et quand tu te couches. Je connais parfaitement toutes tes voies. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Tu as été créé à mon image. Je suis le mouvement, la vie et l'être. Je te connaissais même avant que tu sois conçu. Je t'ai choisi au moment de la création. Tu n'étais pas une erreur. Tous tes jours sont écrits dans mon livre. Je détermine la durée des temps et les bornes de tes demeures. J'ai fait de toi une créature merveilleuse. Je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. C'est moi qui t'ai fait sortir du sein de ta mère. Mon image a été déformée par ceux qui ne me connaissent pas. Je ne me suis pas éloigné ni fâché, car je suis l'expression parfaite de l'amour. C'est mon amour de père que je répands sur toi, parce que tu es mon enfant et que je suis ton père. Je t'offre plus que ton père terrestre ne pourrait jamais te donner, car je suis le père parfait. Toute grâce que tu reçois vient de ma main, car je suis celui qui pourvoit à tous tes besoins. Mon plan pour ton avenir est toujours rempli d'espérance, parce que je t'aime d'un amour éternel. Mes pensées vers toi sont plus nombreuses que les grains de sable. Je me réjouis de tes louanges et de ton adoration. Je n'arrêterai jamais de te bénir. Tu fais partie du peuple que j'ai choisi. Je désire te donner mon pays et tout ce qui s'y trouve. Il est en mon pouvoir de te montrer de grandes et merveilleuses choses. Si tu me cherches de tout ton cœur, tu me trouveras. Trouve ta joie en moi, et je te donnerai ce que ton cœur désire. Car c'est moi qui t'ai donné ces désirs de me plaire. Je suis capable de faire plus pour toi que tu ne pourrais probablement l'imaginer. Car je suis ta plus grande source d'encouragement. Je suis aussi le Père qui te console de toutes tes peines. Quand tu cries à moi, je suis près de toi et je te délivre de toutes tes détresses. Comme un berger porte un agneau, je te porte sur mon cœur. J'effacerai toute larme de tes yeux et je porterai toute la douleur que tu as subie sur cette terre. Je suis ton Père et je t'aime de la même façon que j'aime mon Fils Jésus. Car mon amour pour toi se révèle en Jésus. Il est la représentation exacte de mon être. Il est venu démontrer que je suis pour toi, pas contre toi. Et te dire que je ne compte plus tes péchés. Jésus est mort pour que toi et moi puissions être réconciliés. Sa mort est l'expression suprême de mon amour pour toi. J'ai renoncé à tout ce que j'aime pour gagner ton amour. Si tu acceptes mon Fils Jésus, tu me reçois. Et rien ne te séparera de mon amour. Dans ma maison au ciel, il y a tant de joie pour un pécheur qui change de vie. J'ai toujours été le Père et je serai toujours ton Père. Ma question ce matin est, veux-tu être mon enfant? Veux-tu être mon enfant? Je t'attends. Ton Père qui t'aime, Dieu Tout-Puissant. Amen. Amen. On va prier maintenant. Inclinez vos têtes si vous voulez. Et je veux prier, mais dans votre cœur aussi, vous pouvez prier suite à ce passage, à ce que je vous ai lu. Seigneur Tout-Puissant, ô combien tu es merveilleux. Ô combien tu es grand, Seigneur, dans ton amour. Oui, Seigneur, nos yeux étaient fermés, nos yeux étaient aveugles. Mais dans ton amour pour nous, tu les as ouverts. Tu es venu nous toucher, Seigneur. Seigneur, pour beaucoup, nous avons connu ce privilège. Te rendons gloire, Seigneur. Jamais, jamais, nous n'oublierons cela, Seigneur. Seigneur, ma prière pour ceux qui te connaissent, c'est de te rechercher toujours plus, Seigneur. Cette prière, elle est pour moi, cette prière, elle est pour nous tous qui te connaissons. Seigneur, nous voulons te connaître dans les profondeurs. Comme Jésus passait du temps avec toi, Seigneur, avant d'aller faire les œuvres que tu avais préparées pour la journée. Seigneur, nous voulons passer du temps avec toi, Seigneur, avant d'aller dans ce que tu as prévu, Seigneur, de nous confier. Seigneur, nous voulons nous laisser toucher par cette invitation à venir près de ton cœur. Seigneur, je veux te prier aussi pour tous ceux qui ne t'ont pas encore connu. Alléluia, Seigneur. Je sais, Seigneur, que par ton esprit, tu touches les cœurs. Que ta parole a été touchée les cœurs ce matin. Et je sais qu'elle ne va pas retourner à toi sans effet, Seigneur. Seigneur, je te prie de toucher, Seigneur, les cœurs de ceux qui ne t'ont pas encore reconnu comme leur Seigneur, comme leur Sauveur. Seigneur, que l'aveuglement cesse en ton nom, Seigneur. Que les mensonges cessent en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Que les chaînes tombent en ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui faisait que ces hommes et ces femmes étaient esclaves soit brisé en ton nom, Seigneur Jésus. Tu es venu pour apporter la libération aux captifs, Seigneur. Nous en sommes témoins, Seigneur. Et c'est aussi ce que tu vas faire ce matin. Je te loue, Seigneur, pour ce que tu fais de si merveilleux qu'aucun homme ne peut faire. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Père éternel. Gloire à toi, Saint-Esprit. Amen.